Je suis missionnaire en ligne. Donc, j'ai la joie de travailler avec, de près avec le monde digital. Mais vous devez savoir absolument que avant que je sois en ligne avec Sam Parle pour évangéliser, je n'avais aucun compte de réseaux sociaux. J'avais très peu de vie sociale en ligne. Je suis quelqu'un de la présence réelle. Et pour moi, ça a été un vrai choc de apprivoiser la vie digitale. Mais ça a été aussi très formateur parce que j'ai fait plusieurs constatations. J'ai appris plusieurs leçons, des fois sur le tard un petit peu. Et c'est avec ce bagage-là d'expérience que je suis devant vous aujourd'hui. Quelqu'un qui aime beaucoup le réel, le charnel, l'incarné, mais qui a un ministère digital. Et mon but cet après-midi, c'est pas d'avoir une lecture ni pessimiste, ni ultra positive ou progressiste par rapport aux médias sociaux. C'est vraiment d'essayer de voir quel éclairage jette l'écriture sur notre utilisation de la vie digitale. Vous allez voir, je vais parler d'intelligence artificielle, je vais parler beaucoup de réseaux sociaux parce que ça fait partie beaucoup de la vie digitale, et aussi de la machine, la bête, l'écran. Qu'est-ce qu'on fait de la télévision? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La question de départ, si Jésus était là avec nous après-midi, est-ce qu'il y aurait une vie digitale active? Je sais pas, moi, un Snapchat avec ses disciples, X pour influencer le reste de la planète, YouTube pour créer des bonnes capsules, pour toucher le reste du monde qui ne peut pas atteindre physiquement parlant. LinkedIn pour démontrer ses projets de menuiserie. Est-ce qu'il aurait fait preuve de rejet, de résistance, ou il aurait embrassé à fond ces outils-là? Ben ça, c'est une vraie bonne question de pharisien. Ma petite fille de 4 ans me pose les mêmes questions. Je peux-tu ou je peux pas? Et si je lui dis oui, tu peux, ben elle prend ça comme une licence pour faire tout ce qu'elle veut avec mon oui. Et si je lui dis non, ben là, c'est un non légaliste et elle commence à faire la baboune. Vous dites ça, faire la baboune ici? Elle commence à chigner ou à... Vous dites ça, chigner? Vous avez compris. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. La vraie réponse, Jésus n'est pas parmi nous. On ne sait pas. Il n'est pas né à l'ère des réseaux sociaux. Il est né à l'ère des chameaux. Il n'en avait pas de vie digitale. Donc, on n'a pas un commandement. Voici un verset qui nous dit « Tu n'auras pas de compte X, mais seulement une chaîne YouTube. » On n'a pas cet éclairage si net dans l'Écriture. Mais quand on y pense, il y a plein de sujets pour lesquels on n'a pas... quelque chose de verbatim, de clair dans les Écritures. Si je vous parle de liberté d'expression, si je vous parle d'aide médicale à mourir, utilisation de la marijuana, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces thèmes-là? On prend les principes bibliques et on essaie de voir une petite théologie, essayer de voir qu'est-ce que les principes nous enseignent par rapport à tel thème et comment qu'on peut dresser une manière de se comporter intelligemment. Et ça m'amène à mon premier point. Est-ce que tout le monde peut sortir son téléphone bien haut? Allez, je sais que vous en avez tous un quelque part. L'outil que vous tenez entre les mains... Non, gardez-le en haut. Ceci n'est pas un téléphone intelligent. Vous êtes intelligent. Vous pouvez le baisser maintenant. Mon deuxième point... Vous avez compris. L'intelligence que Dieu nous a donné, c'est ça qui nous permet de bien utiliser l'outil que vous aviez entre les mains. Éphésiens 5, 17 nous dit « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et on pourrait ajouter quasiment « Comprenez la volonté du Seigneur dans tous les domaines, incluant la vie digitale. » Comment avoir une vie digitale à la gloire de Dieu? C'est une question de discernement, de sagesse pratique, éclairée par la parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit dans le concret. D'abord, il est clair que les mêmes principes de vie hors ligne s'appliquent en ligne. Et ça me fait toujours rire. Parce que parfois, la vie digitale est tellement individuelle, tellement privée, tellement à l'abri des regards même parfois, qu'on a l'impression que c'est une sphère qui échappe à Dieu et même aux autres. Et ça me fait toujours rire de voir des gens qui ont une certaine moralité en public, mais en ligne... On dirait qu'on oublie plus facilement. C'est plus facile d'être un petit peu plus, je sais pas moi, moqueur, un petit peu plus sournois dans nos comportements, dans la manière dont on répond. C'est facile de penser qu'on peut quasiment fuir au regard de Dieu parce qu'on est en ligne. Non, tous les mêmes bons principes qu'on a vus ce matin, par exemple, avec David Sautel, ben, s'appliquent en ligne. Cette charité-là, le fait de tourner sa langue ou tourner son pouce 7 fois avant de le publier. Est-ce que je blesse quelqu'un? Est-ce que je vais faire mal à quelqu'un par cette publication-là? Est-ce que j'honore l'Éternel en prenant une photo de moi avec un petit décolleté et de mettre ça en ligne? Est-ce que je fais quelque chose de droit présentement sur ce site-là de streaming? Est-ce que je suis en train de contourner quelque chose que je devrais pas? Vous avez compris le principe? Votre cellulaire est avide de votre attention, votre temps, votre argent, si vous le laissez guider le bal, bien sûr. Mais vous avez l'intelligence, hein? Votre cellulaire n'est pas intelligent, mais vous l'êtes. Mais vous avez l'intelligence pour être maître de votre temps et choisir de laisser le cellulaire sur votre tablette quelques heures. Il peut vous présenter du contenu moqueur, du contenu sensuel, du contenu sexuel, du soft porn, du contenu violent, du contenu juste inutile. Ça, c'est la machine. Mais vous pouvez télécharger de bonnes applications, visiter des sites, fermer rapidement des choses qui viennent à vos yeux. Ça, c'est l'intelligence spirituelle qui vous revient. Les réseaux ne font que vous présenter des contenus que vous aimez parce qu'ils veulent que vous passiez plus de temps. Mais vous avez l'intelligence d'aller télécharger ou d'aller voir des vidéos ou d'aller voir du contenu qui va vous enrichir l'âme, qui n'est pas nécessairement ce que vous iriez voir en premier, mais pour aller écouter l'autre, pour aller prêter attention à l'autre partie du dialogue ou à... Par exemple, moi, une chose que j'aime, c'est aller me promener sur des plateformes d'échange entre les personnes athées qui parlent entre eux et qui disent tous leurs arguments pour leur athéisme. Je trouve ça intéressant d'aller là. Mais c'est pas quelque chose d'instinctif. J'aime mieux écouter du Phil Wickham puis des artistes ou aller entendre des apologètes chrétiens. 1 Corinthiens 6:20 nous dit « Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » La chance inouïe des réseaux sociaux et du cellulaire, la vie digitale, c'est qu'on a la chance dans notre esprit d'être nourri par du bon contenu, d'utiliser ça à bon escient pour faire grandir notre âme. Dans les réseaux sociaux, c'est par notre esprit qu'on glorifie le Seigneur. Le sel, on pourrait dire, est utile à peu. La vie digitale est utile à peu, mais la piété est utile à tout. Donc, si le cellulaire sert à la piété, il est aussi utile à tout. Même chose pour le sport. Hein? Le sport est utile à... C'est le verset initial. Le sport est utile à peu de choses. La piété est utile à tout parce qu'elle mène à la vie éternelle. Mais si en étant sportif, je suis pieux et je me fais édifier à travers un groupe d'amis chrétiens où moi-même, je suis là comme une présence de lumière dans mon groupe sportif, mais j'utilise le sport comme un prétexte. Mais la vraie chose qui m'anime, c'est la piété. Et ça, c'est utile. Et je pense que c'est le même constat qui s'applique pour la vie digitale. Donc, vous êtes intelligent, pas votre cellulaire. Deuxièmement, les technologies sont des outils puissants. Et là, j'ai amené ici mon marteau. Ça, c'est un outil. Vous êtes d'accord avec moi? En soi, c'est quand même assez neutre. Avec ça, on peut bâtir une maison, on peut bâtir une belle cabane, on peut faire du bien, on peut bricoler quelque chose pour nos enfants, on peut s'amuser avec ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire de bien avec un marteau. Mais avec un marteau, on peut aussi, paradoxalement, tuer quelqu'un. On peut faire du mal avec un marteau. On peut être violent, il peut arriver plein de choses avec un marteau de négatif. Mais l'outil en tant que tel, il est neutre. C'est le même concept qui s'applique pour la vie digitale. Les outils qu'on a devant nous sont neutres. Le Nouveau Testament est constitué d'écrits envoyés notamment aux églises que les apôtres avaient pour la plupart fondées et visitées. Et ces écrits ont circulé dans des rouleaux de manuscrits, sous une forme de média, sous une forme d'outils. Et c'était une excellente chose, parce que les médias, l'Internet, la vie digitale prolongent les sens humains. Imaginez un instant avec moi le casse-tête s'il n'y avait pas eu de manuscrits et d'encre à l'époque de Paul. Il y aurait eu des traditions orales qui auraient continué de circuler, et là, il aurait fallu démêler dans les traditions orales qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est du folklore, qu'est-ce qui a été rajouté quand. Mais dans la providence divine évidente, on a pu coucher sur papier ces premières traditions orales qui circulaient chez les premiers chrétiens grâce à la technologie, grâce à aux médias que constituaient les manuscrits, les rouleaux et l'encre. On peut parler de l'invention de l'imprimerie. Vous connaissez peut-être le petit quartier de l'imprimerie ici à Genève, par lequel les écrits de Jean Calvin nous sont parvenus aujourd'hui parce que ses étudiants les rédigeaient. Gloire à l'Éternel pour ces médias-là qui ont fait en sorte que la théologie systématique de Calvin a atteint toute l'Europe, a atteint l'Amérique, même au Québec, on en a bénéficié. C'était des outils. Et je veux que vous l'entendiez vraiment de tout mon cœur. La technologie est une bonne chose au service, lorsqu'elle est mise au service de l'Éternel, de la parole de Dieu. Et moi, ça, c'est une conviction profonde. Depuis la pandémie, comme tout le monde, vous avez été atteint par la pandémie. C'est venu en Europe, la pandémie? Ouais, OK. Et pas une bulle protectrice de la Suisse ou de la France. Une des choses qui s'est passée, vous l'avez vu, c'est que de plus en plus d'églises se sont exposées en ligne, de plus en plus de gens ont commencé à soit faire de l'art en ligne, à faire du témoignage, de l'évangélisation en ligne, de la musique en ligne. Et honnêtement, je pense vraiment que depuis la pandémie, peut-être un peu avant, les médias sociaux servent nettement la cause de l'Évangile. Ça l'empêche la pensée unique. Ça l'empêche les médias traditionnels, souvent plus de gauche, moins sympathiques envers le christianisme. J'imagine que vous avez des médias assez similaires parfois aussi en France, ou c'est juste au Québec. Ça l'empêche ces gens-là d'avoir le narratif dominant, parce que tout le monde a une voix maintenant, et les chrétiens sont inclus là-dedans, dans cette voix-là. Donc, gloire à Dieu pour les outils technologiques, et non au rejet craintif. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, ça avait cette citation qui circulait. La TV, c'est le diable. La télévision, c'est le diable. Écouter Harry Potter, ah, ça, c'est le diable. Donc, c'était un rejet très craintif de l'outil, comme si l'outil lui-même était diabolique. Alors qu'il peut être employé par le diable, mais le Seigneur aussi peut s'en servir. Le Seigneur est capable de même récupérer le mal. Donc, à quel point il est capable de récupérer un outil neutre pour l'avancement de son royaume? Donc, oui à un outil qui me permet d'être au service de Dieu, au service des autres, au service même de la nature, au service de l'Église, au service de Dieu, des gens que Dieu met sur ma route. Mais un outil, rappelez-vous que vous l'actionnez au rythme que vous désirez. Le marteau, là, ne contrôle pas votre vie, ça serait niaiseux qu'on pense qu'un marteau contrôle notre vie. Oh, faut que je prenne mon marteau, oh, faut que je frappe. Non, c'est un outil, j'en ai besoin, je l'utilise, je le remets après à sa place dans mon coffre à outils. Même chose avec la vie digitale, ce sont des outils extrêmement puissants. Pour ma part, pendant 6 ans et demi, je prêchais à 40 jeunes tous les vendredis soirs. J'étais confortable dans un beau petit ministère jeunesse. Et après, j'ai lancé une capsule Ça me parle en une journée, 40 000 vues. Incroyable, la puissance de visibilité à travers ces outils-là. Et là, je pense à vous, les jeunes. Là. Vous avez des talents, là. Vous êtes mille fois plus drôle que moi. Vous avez beaucoup plus de ce côté-là d'esthétique et développé de l'art. Je sais qu'il y en a parmi vous. Vous chantez, vous êtes capable de danser, vous êtes capable de faire des prouesses sportives. Mais utilisez ça en ligne pour la gloire de Dieu. Laissez aller vos dons si le Seigneur vous conduit par là, pour remettre tout ça à l'Éternel, puis que ça soit un beau témoignage. J'aime toujours ça, voir des gens qui ont une belle vie en ligne, une vie en ligne qui est simple, qui est décontractée, un beau témoignage. Je pense que des fois, c'est facile, par contre, de tomber dans l'excès, ou est-ce que, bon, on néglige les gens autour de nous, mais en ligne, on a un super beau témoignage, mais en vrai, c'est pas la même chose. Mais utilisons les moyens de communication à notre disposition. Rappelez-vous que lorsqu'on lit dans les Actes des Apôtres, Qu'est-ce que fait Paul et Barnabas? Qu'est-ce que fait Paul et ses acolytes? Ils cherchent les synagogues juifs d'abord, mais plus les Actes des Apôtres avancent, plus ce qu'on voit, c'est qu'ils cherchent les places où il y a du monde. Ils se rendent à Athènes en Actes 17. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'aéropage public. On veut se rendre où les gens sont et prêcher l'Évangile. Par amour, tout simplement. Et où les gens sont aujourd'hui? En ligne. Pas juste, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est devenu en quelque sorte aussi un tribunal d'idées. Heureusement, il reste des bons livres, il reste des universités, et puis je pense que c'est plus crédible un petit peu que les réseaux sociaux. Mais je l'ai vu avec Sam Parle, de m'afficher comme ça, puis d'aller jouer dans des débats en ligne, d'aller promouvoir l'Évangile, d'entreprendre des bonnes conversations avec les gens. C'est devenu un aréopage moderne pour que notre voix porte mieux. Jésus, lorsqu'il prêchait, il se rendait où pour prêcher? Stratégiquement, il se rendait soit sur un lac ou soit sur une montagne ou à mi-chemin sur une montagne pour que sa voix porte mieux. La vie digitale, les médias peuvent être un porte-voix de qualité de nos jours. Vous êtes toujours là? Vous respirez encore? Troisièmement, embrasser le réel au lieu de le fuir. Écoutez ce que, comment l'apôtre Jean termine sa deuxième lettre, des lettres probablement qu'il envoyait à une communauté ou peut-être quelques communautés qui avaient fondé ou du moins qui entretenaient un lien assez étroit. Après avoir parlé, fait des recommandations sur la fidélité dans la vérité, d'avoir incité à l'amour, avoir mis un peu de théologie, il termine sa lettre en disant « J'aurais encore bien des choses à vous écrire. » C'est 2 Jean 1.12 pour ceux qui prennent des notes. 2 Jean 1.12 « J'aurais encore bien des choses à vous écrire. » « Oh, je vous en écrirai de la théo. » »« Mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. »« J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. » Ça vous rappelle pas les paroles de Jésus, ça? Je m'en vais, les gars, mais inquiétez-vous pas, je vous prépare une place. Une place afin que là où je suis, vous serez. Et il a tellement voulu être clair qu'il a rajouté, là où vous serez, je serai aussi. Si c'est pas de la présence réelle, physique, incarnée, charnelle, live, là, je sais pas ce que c'est, ça. Si c'est pas de la priorité au moment présent, à l'individu, à la vie incarnée, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'amour du présent. C'est une vie chrétienne incarnée à la suite de notre Sauveur qui s'est incarné. Tu sais, le Père ne nous a pas envoyé un texto, un Snapchat d'en haut. « Hey, salut, je vous aime, PS, vous êtes pardonnés, les amis. » De ne pas envoyer un courriel complet avec les 5 points du calvinisme. Croyez ça, vous aurez le ciel qui va s'ouvrir devant vous. Il ne nous a pas envoyé une lettre, il nous a envoyé son Fils. C'était ça son message. Le messager était le message et le message était le messager. Et c'était un homme. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous n'aurez jamais mieux que là, ici, vous, toi. Moi, vos yeux, les miens, la chair, la vie, c'est ça. Mais je vois tellement de jeunes qui vivent une sous-vie à travers l'écran, paramétrer leur vie réelle en fonction du virtuel, blesser les gens dans le réel à cause du virtuel, gamer tard le soir alors que l'épouse aurait besoin, alors que le frère ou la petite sœur aurait besoin dans ses devoirs. Je vois tellement de jeunes qui vivent une sous-vie par représentation à travers l'écran, alors que Dieu nous a donné tous les sens pour vivre ici et maintenant une vie riche, pleine et abondante. Je vais commencer à prêcher si vous me laissez là. Non, mais c'est vrai. Vous avez et le problème du cellulaire, je vais vous le dire, ok, c'est que vous êtes né avec. On est né avec. Et on est né aussi avec un cœur idolâtre. Qui désire trop souvent le pouvoir, la puissance, le contrôle, l'omniprésence, l'omnipuissance. Et le cellulaire nous offre quelque chose de pas loin. Et on a l'impression que c'est une extension de nous-mêmes. Je sais que c'est chaud ce que je dis, parce que pour certains d'entre vous, vous vous réveillez, vous êtes sur votre selle. Vous allez aux toilettes, vous êtes sur votre selle. Vous vous couchez, vous êtes sur votre selle. Le cellulaire n'est pas une extension de vous-même. Dieu vous a tout donné pour vivre la vie qu'il avait prévu pour vous. Une vie belle, une vie bonne. Encore de ce côté-ci de l'éternité, infectée et affectée par le péché. Mais reste que vous avez tous les sens, les organes pour pouvoir la vivre. Le mot de passe de mon Internet à la maison, vous savez c'est quoi? Priorité au réel. Je pense qu'ici à l'IBG, ils ont quelque chose de similaire. C'est quoi? Je dois rester social. Ce que vous voyez sur votre cellulaire, le piège, en fait, c'est que c'est une, au mieux, c'est une interprétation de la réalité. Mais au pire, c'est un amalgame truqué de la réalité. C'est une fille qui se met sur Instagram sur un yacht dans les îles, alors qu'elle est en plein divorce avec son mari, ses enfants ne lui parlent plus. C'est ça. C'est peut-être pas juste ça, mais je le vois. Même avec ça me parle. Je suis une réalité augmentée lorsque je suis en ligne. Je ne parle pas aussi bien, je ne suis pas aussi beau, je ne suis pas aussi rapide. c'est une réalité augmentée au meilleur, mais ça peut être aussi une réalité déformée. Et ce danger-là est là d'accrocher notre identité à ce qu'on voit en ligne, alors que ce qu'on voit en ligne, il n'y a personne qui vit ça dans le réel. Vous me suivez? Même quand on prend une photo un peu bizarre, puis on la montre à nos amis, on dit quoi? On dit « Attends, faut que je t'explique le contexte. T'étais pas là. » Trois dangers rapides. Tout miser ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et commencer à se comparer. Et le piège est là. Paramétrer notre vie privée en fonction de notre vie publique. Jésus dit « Ils agissent pour être vus des hommes. » Chercher notre identité en se créant un faux personnage hypocrite que nous ne sommes pas vraiment. Ça, c'est une question que je me pose avant de publier. Même sur Sampar, j'essaie de... Je suis en train de me... Vous dites ça ici, de me pomper? Non? Je suis en train de me pimper? Non plus? Vous avez compris. Je suis en train de m'augmenter, de me mettre de l'avant. C'était ma référence, OK? Parce que... Puis c'est là que l'Évangile entre en ligne de compte. Mon identité, elle est où? Dans ce que les yeux, les regards voient autour de moi sur mes comptes, où elle est en crise. Est-ce que j'ai besoin d'un clic de plus, d'une vue de plus? Et je sais que c'est dur parce que, mais moi le premier, je l'expérimente. La dopamine d'être aimé, ouh là là! J'ai fait 500 vues, j'ai fait 1000 vues, des milliers de vues, j'ai eu des likes. Et c'est prenant, c'est addictif même si on se laisse aller. C'est aliénant au final. Mais Dieu a dit, je pense... Donc, vous êtes. Je n'ai pas besoin de poster pour être. On a toute notre identité solide et affermie en Christ. Et nous sommes aimés. Nous avons été aimés avant de même pouvoir aimer Dieu. Et ça, il n'y a pas d'identité plus solide que ça. Et quand cette identité-là transparaît en ligne, c'est là qu'on a un témoignage vibrant, je pense, l'Église. Nous ne cherchons pas les yeux. Nous cherchons ce que les yeux soient sur l'Éternel, sur ce que l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, ultimement, que j'ai pas beaucoup de likes, que j'en ai beaucoup, c'est pas ça qui fonde mon identité. Et je vais vous le dire, si demain matin, là, ça me parle, arrête. Au début, c'était difficile. J'ai beaucoup lutté avec la gloire, le fait d'être vu. Mais, écoute, si vous vivez des applaudissements des gens, vous allez mourir de leurs critiques. Si vous vivez des likes, des vues, d'être aimé comme ça, le jour où ils vont vous mettre à la poubelle parce que vous êtes plus aussi cool, vous êtes plus aussi nice, vous êtes plus aussi productif, votre identité s'écroule par le fait même. Priorité au réel. Ça fait référence à l'allégorie de Platon. Hein? On veut sortir de la caverne. On ne veut pas voir les images des images. On ne veut pas voir le reflet d'une vie. On veut sortir de la caverne. J'amènerai pas mon cellulaire à la table parce que je veux voir les yeux des gens avec qui je mange. Je veux communier avec eux. J'amènerai pas peut-être mes écouteurs au gym. Et ça, je l'ai vécu personnellement. J'arrive dans une salle de sport et, comme tout le monde, on a des écouteurs puis personne ne se parle. Et là, le jour où je me dis, non, ça marche pas, ça. Je veux pas m'entraîner avec des machines, je veux m'entraîner avec des gens. J'enlève mes écouteurs et la semaine même, commence à avoir des contacts, fais des yeux aux gens, commence à parler avec des gens à la salle de sport. Et on me dit même, toi, t'as pas d'écouteurs? Ah non, je suis chrétien. C'est bête, mais le monde digital nous crée une bulle qui nous empêche de rentrer en relation et parfois même nous empêche d'évangéliser, d'être une lumière autour de nous. Juste cette disponibilité. C'est quand vous avez pris pour la dernière fois le transport en commun puis vous avez dit, non, je n'écouterai pas ma musique, je n'écouterai pas une vidéo, ça me parle, je refuse la tentation. Je vais être disponible pour les gens que Dieu met sur ma route. Je ne vais pas voir et passer outre, pour reprendre les mots de la parabole du bon samaritain. Facile, hein? Mais je veux être là. Et vous savez quoi? Vous allez être surpris. Il y a une étude qui a été faite, les gens qui sont vulnérables sont plus heureux. Faire des petits sourires dans l'autobus, faire des petits sourires, juste être disponible. Et vous allez être surpris, les gens qui vont venir vous parler, puis vous n'auriez pas pensé avoir des conversations avec ce type de personnes-là. Mais ça, c'est encore une fois des principes chrétiens, bibliques. Je veux être là avec les gens. Et je pense aussi parfois que, pour revenir à mon point, embrasser le réel ou le fuir, j'essaie de me poser la question aussi, est-ce que présentement je suis sur mon cell, ma tablette ou mon ordi pour fuir quelque chose dans le réel que je ne veux pas affronter? Est-ce qu'il y a des peurs, des angoisses, des péchés péché dont je suis esclave? Est-ce qu'il y a des moments, des rencontres, des conversations que je devrais avoir? Mais c'est plus facile de me réfugier dans le réel, de fuir le réel. Fuir ce réel que Jésus a affronté jusqu'au bout sur cette croix romaine il y a 2000 ans et dont il a refusé d'être anesthésié avec un petit vin amer dégueulasse. Mais ça aurait allégé un petit peu, ça aurait donné un petit soulagement devant le réel. Mais non, Jésus a affronté le réel jusqu'au bout, sans son Père, afin que nous puissions vivre le réel avec Dieu, et non pas sans. Vivre les peines, vivre les frustrations, vivre le stress, la pression des examens, la pression des pères, la pression des regards, la pression des parents parfois, avec Christ, avec son esprit. Pas avec une tablette ou un cellulaire qui nous donne un petit moment d'évanement nécessairement. Et comprenez-moi bien, c'est bon d'avoir un petit moment paramétré d'évanement sur nos cellulaires, mais lorsque ça devient une fuite, un refuge, je pense que ça ne peut pas combler les aspirations de nos âmes et la sécurité qu'on a besoin dans nos cœurs qui vient seulement par Christ. Quatrième point, tu es toujours là? Maître de mon temps et de mon intimité. En 1926, à Londres, lorsque la télévision a été fondée, il y a un pionnier de la radio américaine qui a dit « Non, non, ça c'est un développement dont nous devrions éviter de perdre du temps à rêver inutilement. » Daryl Zanuck, un producteur de films, a fait lui aussi une prédiction. « Le public se lassera vite de regarder passivement un meuble de bois tous les soirs. » Ouch! Force de constater qu'il y avait tort. Netflix, Amazon Prime sont beaucoup plus attirants que ça. Gandalf a dit une parole très sage à Frodon. C'est mon théologien préféré, Gandalf. Il dit, alors que Frodon lui partage son désespoir devant la lourde tâche d'amener l'anneau au Mordor et de réaliser la tâche qui lui a été confiée, Gandalf lui dit, « Mon cher Frodon, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. » Ça paraît bête, ça paraît simple, mais c'est vrai. Il y a peu de choses que nous possédons dans ce monde, mais une des choses qu'on possède, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Dieu voulant et dans la grâce de Dieu. Mais une des choses qu'on a en tant qu'être humain, c'est 24 heures dans une journée. Et le choix, en partie, d'administrer ce temps-là. Et pourquoi c'est pas banal? Parce que ce qu'on fait avec notre temps reflète comment on avait planifié notre temps. Comment on avait planifié notre temps reflète nos priorités de vie. Et nos priorités de vie reflètent nos priorités de cœur. Et c'est du cœur que vient toute chose. C'est de lui que peuvent venir les sources de la vie. Donc, c'est une bonne question à se demander. Est-ce que je mets des mesures pour me contrôler, pour contrôler le temps que j'alloue devant l'écran, devant l'ordi, devant le téléphone? Par exemple, moi, les notifications, j'ai dû stopper ça. Il n'y a personne qui va me déranger de l'instant présent. Je veux vivre l'instant présent et quand je veux voir ma tablette, je vais regarder les notifications. C'est des exemples. J'ai appointé les temps appropriés pour utiliser mon cell. Je ne me lève pas le matin en regardant mon cell, j'ai passé une bonne heure sans digital. Je me couche pas le soir en regardant mon cell. Une bonne heure sans digital également. J'essaie de détrôner le divertissement continuel. Divertissement, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie que juste ce divertissement. Il faut bien le cadrer à la bonne place, à la gloire de Dieu, pour laisser descendre la pression. Si c'est mon mode de vie de tous les jours, un problème. Contrôler le réflexe. Trop souvent, on va sur nos ordis, sur nos écrans comme un réflexe. Et ça, c'est pas bon. Parce que ce n'est pas un choix, c'est un réflexe, ça devient instinctif. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit un choix. Je choisis de prendre ce temps-là sur mon cellulaire. Mais un réflexe, on le sort, puis finalement, on finit par passer beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Au travail, je refuse, je ne volerai pas mon employeur. Je ne perdrai pas du temps à scroller alors que je suis posé travailler. À l'école, je vais écouter l'enseignant, même si c'est pénible et c'est plate parfois. Merci mon Dieu pour les bons enseignants qui m'expliquent ton bon monde que tu as créé afin que je le découvre pour ta gloire. Et je sais que vous vous dites ça dans toutes les classes que vous avez. Non? Qu'est-ce que Dieu me demande dans cette saison-ci? Est-ce que je devrais prioriser un petit peu plus mon église, le travail, les études, avant les médias? Est-ce que je suis capable de jeûner occasionnellement? Ça, c'est une bonne question que vous pouvez vous poser. Je suis capable de lâcher mon cell une journée, 24 heures, une semaine, en vacances, un week-end de Pâques. savoir que ça nous fait du bien, mais tout ce qui nous fait du bien, puisque nous sommes une usine à fabrication d'idoles, est susceptible de devenir compulsif. Et oui, je le sais, hein, c'est prévu, c'est créé pour être compulsif et addictif comme contenu. Vous savez pourquoi ça s'appelle un feed? Parce que ça nous nourrit constamment. Ça feed. Mais on n'est pas des cochons, on a besoin d'être nourris constamment. C'est les cochons qui veulent juste manger. Mais nous, on n'a pas besoin de feed. Et encore moins quand ce qui nous nourrit, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour de Dieu, c'est les Écritures. J'ai pas besoin de ça ultimement. C'est conçu pour nous rendre accro. Mais en tant que chrétien, on refuse d'être esclave de quoi que ce soit. Ça nous est permis, mais ça nous est peut-être pas utile de devenir accro. Ça nous est vraiment pas utile d'être esclave de ça. Quelle autorité devrait d'abord et avant tout nourrir ton âme? YouTube ou ton pasteur? Ça, c'est un grand... Je sais pas, en France, mais au Québec, les gens pensent que YouTube, c'est une église. Il y a toutes sortes d'apôtres, de prophètes, Monsieur X, Madame diaconesse, une telle qui se part d'une chaîne. Puis le danger là-dedans, c'est que les gens tirent leur source d'enseignement, d'autorité, ils donnent à des ministères comme si c'était leur église. Mais YouTube n'est pas une église. Pourquoi? Là où je serai, vous serez, et là où je serai, vous serez. Parce que Dieu a conçu l'église comme étant le rassemblement physique des croyants de manière hebdomadaire, pour chanter, prier, louer et surtout communier, boire le pain et le vin. Boire le vin et prendre le pain. T'as déjà essayé de communier en ligne? C'est dur, hein? C'est pensé comme ça. L'Église incarnée. YouTube n'est pas une Église. Et attention, je dirais aussi au fast-food pour l'homme. Les petites citations cute sur Insta, c'est beau, c'est bien. C'est comme du fast-food. Si c'est devenu ta lecture biblique quotidienne, à un moment donné, comme du fast-food, tu vas avoir besoin d'un petit peu plus de protéines, un peu moins gras, de sel et de sucre. Un peu plus de quelque chose de dense. Et heureusement, il existe des bonnes applications en ligne. Il existe des bons sites. Je peux parler de la REB que vous avez rencontré en fin de semaine. Tout pour sa gloire, qui vient de France. Florent Varac, il y a des bons auteurs. Il existe du bon contenu, là. Un jeune théologien, youtubeur, son nom m'échappe, là, mais il n'y a pas beaucoup de cheveux là, au Québec. Il existe des bonnes ressources pour vrai. On n'a pas d'excuses dans le monde qu'on est pour aller chercher des choses qui nous nourrissent vraiment en ligne lorsqu'on veut un bon moment en ligne. Maître de mon temps, maître de mon intimité. Et ça, c'est un concept à redécouvrir. Le problème avec les médias, c'est qu'on peut tout, on peut voir tout le monde tout le temps et on peut être vu de tout le monde tout le temps. Des fois, je me promène, puis je veux dire, tu me montres ton déjeuner, ton dîner, ton souper, comment tu as habillé tes enfants aujourd'hui, la prière du soir que tu as faite avec eux, puis tu me fais un dernier coucou avant de te coucher. J'ai pas besoin de voir tout ça. Il y a un principe qui est, regarde, si demain matin je prends ta maison, puis j'en fais un aquarium avec des vitres, partout où tu manges, on te voit. Tu es dans le salon, tic, on te voit. À un moment donné, tu dirais, c'est malsain. J'ai pas été créé pour être vu constamment par 50 000 personnes qui me regardent. Non. Et c'est encore une fois un petit peu la tentation de l'omniprésence. Je veux être partout. Non. On a été créé pour là, ici, maintenant, des relations, un rythme modéré et réel. On n'a pas été créé pour être en contact avec 5 000 amis. Et c'est une des raisons pourquoi la critique des réseaux sociaux est encore plus virulente ces jours-ci. Alors, je ne sais pas en France, mais au Québec, de plus en plus. Parce que les gens réalisent, mais dans le fond, depuis que j'ai des réseaux sociaux, j'ai beaucoup moins d'amis que j'avais avant. J'ai beaucoup moins de temps que j'avais avant. Puis en réalité, j'ai beaucoup moins de profondeur. Je vous encourage. Maître de votre temps, maître de votre intimité. L'intimité de votre corps également. L'intimité de votre corps. Attention, parce que la manière dont vous affichez en ligne, est-ce que ça peut être une source de tentation pour des garçons ou pour des filles? Ça va dans les deux sens. Est-ce que je suis là à essayer de show off mes gros biceps puis essayer de me prouver devant des gens? Ça fait des clics, ça fait des sous même. Il y a des gens qui vivent de ça. Est-ce que je suis en train de mettre de côté l'intimité que je devrais préserver pour mon épouse ou pour mon époux? Et dernièrement, c'est toujours là, rester humain. Demandez à la personne à côté de vous, « T'es-tu un humain, toi? » Avec l'accent québécois, là. « T'es-tu un humain, toi? » être, point, humain, point. Et ça, c'est mon dernier petit point sur l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Vous connaissez ça, l'intelligence artificielle ici? ChatGPT, tout ça. Qui l'utilise, vous levez la main? Oh, les tricheurs. Quelqu'un qui dit, toi aussi, tu l'utilises. OK, devant l'omniprésence de l'intelligence artificielle, comme dans toute chose, l'Église ne gobe pas de manière naïve tout ce que le monde a à offrir, mais n'offre pas non plus une résistance craintive. Je crois qu'on est appelé à offrir juste une belle critique, réaliste, biblique, posée, équilibrée, et j'aurais le goût de dire débrancher un petit peu, déconnecter de ça. C'est la manière dont, je pense, en tant que chrétien, on est appelé à gérer ces nouveautés-là qui semblent soudainement, il y a une nouveauté à chaque année, là, il va y en avoir d'autres nouveautés que l'intelligence artificielle, mais des fois, on est trop réactionnaire, alors qu'on peut prendre un pas de recul, voir où ça s'en va, et essayer d'appliquer, encore une fois, les principes bibliques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense qu'un des grands dangers d'intelligence artificielle, excusez-moi, je pense qu'il y a des possibilités inouïes avec l'intelligence artificielle, c'est évident. On peut sauver beaucoup de temps pour faire des tâches plus ou moins utiles, pour avoir beaucoup plus de temps pour être là, dans les choses qui comptent vraiment, la piété, la vie d'église, la vie de famille, ta vie personnelle avec le Seigneur, et gloire à Dieu pour tout ce temps-là qu'on peut sauver. Je pense aussi qu'on peut développer des belles avancées technologiques, des avancées civiles, sociales, avec l'intelligence artificielle, et c'est superbe de voir ça. Que la gloire soit rendue à Dieu encore une fois pour les intelligences humaines qui ont créé l'intelligence artificielle. Un petit rappel. Mais je pense que, c'est pas moi mais qui le dit, mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je pense que c'est Bavin qui dit ça. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant qui met toutes ses facultés au service du Seigneur en découvrant ce que Dieu a caché dans sa nature, dans ce monde, dans la science, dans les lois, dans tout ce qu'il y a à découvrir et à connaître et à appliquer et à affronter dans cette réalité. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui l'aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée également. Et le problème qu'on peut rencontrer avec l'intelligence artificielle, c'est lorsqu'on met notre pensée, notre intelligence humaine sur la tablette et on confie notre intelligence à l'intelligence artificielle. Alors non seulement on manque le processus, parce que Dieu a voulu nous former une pensée qui cherche la vérité, qui est mu par la recherche de la vérité avant la recherche de l'efficacité, pour qu'on puisse, avec nos cerveaux, découvrir ce que Dieu a caché dans ce monde. On veut utiliser nos facultés pour le bien. Et le danger de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez l'expression ici en France, c'est de devenir « brain rot ». Là, il parle de l'abrutissement numérique. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on l'utilise. Pas juste pour les finalités qu'on va découvrir avec nos cerveaux, mais pour le processus qu'on a de creuser, de fouiller, de comprendre, de faire sens de la réalité autour de nous. Le Dieu raisonnable, il n'est pas plus raisonnable que Dieu, qui a créé la raison humaine pour que, à son image, nous puissions réfléchir le monde, la vie, la psychologie, la science, la biologie, le sport, nous puissions développer tous les domaines de ce monde à sa gloire. Mais il y a un problème lorsque, par paresse, on confie cette tâche-là qui est noble à une machine. Est-ce que j'aime plus la productivité, l'instantanéité, l'efficacité que la vérité? Je veux, par mon cerveau, par les facultés que Dieu m'a données, découvrir ce monde. Et je pense qu'on a beaucoup à redécouvrir la lenteur de ce monde. C'est vrai que les choses les plus belles de ce monde prennent souvent le plus de temps. Vous avez déjà tenté d'élever un enfant, vous autres?
Oui.
C'est long, hein? Je pense que ma mère, elle m'élève encore. Votre sanctification à vous, comment ça va? C'est long, hein? Ben, vous en avez pour la vie. Mais c'est la plus belle chose que Dieu va faire en vous. Mais c'est lent. Très lent. Les belles relations, les belles amitiés, ça fait combien de temps que vous les construisez? Des années, hein? Mais ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps, ça a été lent. Et posez-vous la question. Est-ce que je veux juste des choses vite dans ma vie, des choses rapides, du fast-food, des choses, l'instantanéité, où je vais utiliser mes dons, mes talents, et peut-être que je vais réaliser quelque chose en en 5 mois, en 5 ans, en 60 ans. Je pense à un théologien, Tim Keller, des États-Unis, qui avant 60 ans, si ma mémoire est bonne, n'avait jamais écrit un livre. Il a écrit 15 livres, après il est mort. Aujourd'hui, il n'y a pas de théologien plus influent en Amérique du Nord, en tout cas. Mais ça a pris 60 ans avant qu'il écrive de quoi? 60 ans. C'est long? Longtemps? Je suis un humain et je n'ai pas été fait pour tout soumettre à la machine. Je ne suis pas un engrenage de la machine. Je suis le summum de la création divine et je veux utiliser mon leadership, ma raison et mon éthique. Et ça, c'est un des gros problèmes avec l'intelligence artificielle aussi. Ça n'a pas de conscience morale, l'intelligence artificielle. Du moins, ça a celle qu'on lui transmet, nous, les humains. Est-ce que la machine me dicte ou c'est moi qui en ai le maître? Est-ce que c'est un outil dont je suis aliéné alors que c'est moi qui l'ai forgé? Et pour les adeptes des Seigneurs des Anneaux, vous comprenez la référence ici? L'homme est en quelque sorte passé de maître et possesseur de la nature, selon Descartes, à esclave possédé par la technique. L'univers hyper puissant de la technique peut facilement se retourner contre nous si on le laisse aller. Le cellulaire nous isole, disait quelqu'un, la voiture nous ralentit, les médicaments nous rendent malades. C'est exagéré un petit peu, mais quand même. Et comme Jacques Ellul l'a bien dit, pourtant, le théologien protestant, Jacques Ellul, ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais c'est le sacré conféré, transféré à la technique. La technique n'est pas neutre. C'est un rapport existentiel et religieux qu'on engage avec la technique. La technique, la technologie sont des véritables cadeaux de Dieu, juste à temps qu'ils deviennent Dieu, qu'ils deviennent des veaux d'or. Parce que derrière l'amour de la technique se cache l'amour du progrès. Progresser, un monde qui progresse pour devenir Dieu. Une certaine tour de Babel. Si on peut s'élever et on n'aura plus besoin de Dieu, et l'IA va nous découvrir les vaccins contre toutes les maladies et les médicaments contre le cancer, mais ça y est, on aura vaincu peut-être même la mort un jour. Mais quelle folie, absurdité de l'être humain pécheur. Martin Heidegger, que j'ai cité vendredi, nous disait une formule pertinente. Il dit « L'essence de la technique n'est rien de technique. » Elle est d'abord une certaine manière qu'a l'homme de se tenir dans le monde, de se rapporter à tout ce qui l'entoure, de se représenter le réel, de considérer les choses et de les dévoiler. Le rapport qu'on entretient avec la technique, il est existentiel. Et si notre manière de se rapporter au réel ne passe que par l'intelligence artificielle, que par la technologie, eh bien, on délaisse toutes les autres facettes de ce monde dont Dieu, par lequel Dieu peut nous parler et se révéler. L'art, la théologie, la religion, la philosophie, la méditation, on court-circuite toutes les... Parce que vous savez que ce monde est un gros symbole de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais si je passe seulement par la tablette, seulement par l'intelligence artificielle, et je ne passe pas par l'humain, par la littérature, par la philosophie, par tout ce que Dieu met à ma disposition, l'art, par tous les autres domaines qui sont dans le vrai, dans le monde ici, je court-circuite le moyen dont Dieu a voulu se révéler. La gloire de l'Éternel se voit à travers toutes les facettes de ce monde. Mais si ma vie, elle est médiatisée, médiée par la machine, je ne me laisse plus médier par le médium que Dieu a voulu, c'est-à-dire ce monde, les gens, l'Église. Le désir d'être comme Dieu est camouflé derrière l'intelligence artificielle. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Même si la technologie devait le permettre, on devrait le refuser. Je pense qu'un des grands problèmes avec la technique, c'est qu'on fait comme les Israélites. On pense que si on a l'arche, Dieu est là. On emboîte Dieu dans notre technique. Et les Israélites qui pensent que s'ils vont à la guerre puis ils ont l'arche avec eux, ça y est, le tour est joué, ils vont vaincre le peuple ennemi. C'est une mentalité technicienne. Mon rapport avec Dieu devient médié par la technique. Je l'emboîte, je l'enferme. Mais Dieu ne se laisse pas emboîter. Il est le Dieu vivant. Et c'est C.S. Lewis qui disait, toute réalité est iconoclaste. J'ai beau me créer une illusion de la vérité, de la réalité, elle va finir par être brisée par la réalité du Dieu vivant. La réalité l'emporte toujours. C'est pas Paul qui dit, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'avons aucun pouvoir, ne serait-ce que pour la vérité. Donc, mon encouragement... Que je crois biblique pour vous, gardez les réseaux sociaux, utilisez-les à bon escient, pour bâtir votre piété, pour connecter avec des gens, avec les gens autour de vous, sans déshumaniser, sans techniciser. Soyez des artisans de paix, même au bout de l'écran. Entreprenez des vraies conversations, utilisez les réseaux pour la gloire de l'Éternel, mais soyez conscients des limites, des dangers, des tentations. Attention à ne pas jeter vos perles aux pourceaux. Repoussez les querelles folles et inutiles. Mais au contraire, soyez consacrés hors ligne comme en ligne. Et je dirais que je terminerai en disant que la vie digitale est un excellent complément de l'irremplaçable réalité de Dieu. Et je sais qu'en disant ça, je prêche quasiment pas pour ma paroisse parce que mon ministère est 100% en ligne. Mais vous voyez que même si je m'adonne au monde digital, je n'adore pas le monde digital. J'adore l'Éternel et je veux que sa parole guide ma pratique dans tous ces sens-là. Donc on navigue entre opportunité inouïe, et surtout pour l'Évangile, mais risque réel entre chance incroyable et danger potentiel. À nous de bien les utiliser. Et ma prière, c'est la même que celle du psalmiste, psaume 119, verset, 37. Seigneur, détourne mes yeux de l'illusion et fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Donc, j'ai assez parlé, ma voix en témoigne. J'ai assez parlé, et j'aimerais qu'on passe au temps de questions-réponses, mais j'aimerais l'élargir un petit peu. J'ai fait ça hier, puis j'ai vraiment apprécié. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez. Peut-être même vous les avez notées durant l'entretien qu'on a eu. Mais si vous avez un brin de sagesse à nous offrir aussi, je suis conscient que j'ai pas toute la sagesse du monde, j'ai pas toute l'expérience. On a des aînés dans le fond de la salle un peu. Et si vous avez... oh, des aînés quand même. Si vous avez des conseils ou quelque chose que l'expérience vous a révélé ou que, un éclairage biblique a jeté sur votre pratique en ligne... soyez ouverts de le partager aussi, on serait content de l'entendre. Et pour que tout le monde entende, quand vous allez poser une question, je vais répéter votre question. Je le dis pour ne pas l'oublier.